Essayez de vous placer au milieu du pont, sur le côté gauche, afin d'avoir une meilleure perspective. Vous êtes sur le Herengracht, le canal des seigneurs. Sur votre gauche, vous remarquez que le canal amorce une courbe jusqu'au prochain pont, comme les deux autres canaux qui suivent en parallèle le même tracé. Cette courbe est nommée de Houdebocht, la courbe d'or. Pourquoi ce qualificatif ? Parce que c'est sur cette courbe qu'ont été construits ce qu'on pourrait appeler des hôtels particuliers pour les gens les plus riches d'Amsterdam. Il vous suffit de voir la largeur et l'ampleur de tous ces bâtiments pour vous rendre compte qu'ils sortent vraiment du lot. D'ailleurs, en parlant de lot, la ville avait alors décidé de vendre des lots de construction par deux, ce qui vous explique la taille de ces maisons. De plus, elles sont bâties en pierre de taille, ce qui est un vrai luxe, car le sol d'Amsterdam ne recèle aucune roche, du moins à la surface. Si vous voulez trouver un sol rocailleux, c'est alors à 400 mètres de profondeur qu'il faut descendre. Donc c'est de la pierre importée, souvent d'Allemagne et de l'actuelle Belgique, notamment pour le marbre. Signe aussi de grande richesse, l'escalier double en continu qui vous mène à la porte en entrée. Vous pouvez ainsi parvenir à la porte aussi bien du côté droit que du côté gauche. La première partie du canal s'arrêtait jusqu'en 1663, un petit peu en amont par rapport au pont sur lequel vous êtes en ce moment. À partir de 1663, on a décidé de le prolonger et entre 1663 et 1668, la ville a vendu les lots à bâtir en double, comme nous le disions plus tôt. Le prix du lot s'élevait alors à 8000 florins, l'équivalent de nos jours à 500 000 euros. Ces maisons, que l'on peut sans hésitation qualifier de palais, ont en moyenne 1000 mètres carrés de surface habitable et un jardin intérieur pour la plupart. Les archives révèle qu'au moins 6 demeures étaient la propriété de marchands d'esclaves vendus pour travailler dans les plantations au Suriname. De nos jours, elles sont occupées par les sièges de grandes banques et d'assurances, ainsi que des maisons d'édition, des bureaux de juristes et avocats, et des instituts culturels comme le Goethe-Institut, l'institut culturel allemand. Le Herengracht, le canal des seigneurs, fait partie de ce qu'on appelle de Gracht Gordel, la ceinture des canaux. Il s'agit de 3 canaux, creusés à partir de 1613, lors d'un plan lancé la même année par la ville d'Amsterdam, appelé la troisième expansion. La ville d'Amsterdam va en effet connaître dès le début du XVIIe siècle un boom économique comme peu de métropoles en ont connu en un court laps de temps. En 1595, les Hollandais découvrent la route maritime qui les mène aux Indes orientales, l'actuelle Indonésie, qu'ils vont coloniser. Et cela va être le début de la richesse et leur assurer le statut de puissance maritime et coloniale. En 1602, la Compagnie des Indes orientales est fondée. On la considère comme la première multinationale. Les Hollandais ont ainsi l'exclusivité sur des épices très recherchées dans le monde, la noix muscat par exemple. L'argent commence à couler à flot, et pour satisfaire à la demande, il faut construire de nouveaux bateaux. Pour ce faire, on a besoin de main-d'œuvre et artisans. Ils vont être fournis par des émigrants venus de Suède, d'Allemagne, du Danemark, ainsi que des Néerlandais et des autres provinces. Mais Amsterdam n'a pas la place de loger tous ces gens et menace d'exploser. D'où ce plan d'expansion vers l'ouest, mais aussi vers l'est de la ville. Pour donner un exemple, on compte en 1600 60 000 habitants et en 1650 200 000. N'oublions pas non plus qu'à partir de 1595, Amsterdam a vu arriver des juifs séfarades chassés par l'Inquisition et à partir de 1618, des juifs askénazes fuyant la guerre de 30 ans en Allemagne. ce qui veut dire que trois quarts des habitants à cette date n'y sont pas nés et viennent d'ailleurs. En s'étendant vers l'ouest, Amsterdam va creuser ses trois canaux dont le tracé se suit parallèlement. Nous répétons leurs noms pour la bonne compréhension. De Heerengracht, canal des seigneurs, de Keizersgracht, canal de l'empereur, et de Prinsengracht, le canal des princes. Ils sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Des demeures vont être construites sur les trois canaux, ainsi que des entrepôts pour emmagasiner les marchandises. On reconnaît les entrepôts aux larges et hauts panneaux de bois situés au centre de chaque étage, ainsi qu'à la poutre située au sommet, sur laquelle on fixe une poulie afin de charger ou de décharger. On voit ces poutres également en haut de la façade de toutes les habitations, car il est pratiquement impossible de déménager par l'escalier, du moins pour ce qui concerne les meubles et autres objets volumineux. Car, pour gagner plus d'espace sur l'intérieur des maisons, les architectes ont réduit les escaliers à une dimension telle qu'ils ne laissent la place que pour une seule personne, un peu comme la passerelle intérieure d'un navire. En vous promenant, vous avez sûrement remarqué que pas mal de maisons sont inclinées. Vous avez en fait deux sortes d'inclinaisons. La première est voulue, la seconde est fortuite. Commençons par la première. La façade a été construite de façon à ce qu'elle penche vers l'avant. Plusieurs raisons ont été invoquées pour expliquer ce phénomène. On pensait que cette inclinaison était voulue pour assurer un emménagement ou un déménagement de meubles sans éventuel dommage pour les fenêtres des voisins, puisqu'elle constituait, à partir de la poutre poulie, un angle offrant plus de marge de manœuvre. On pensait également que cette inclinaison protégeait les montants en bois des fenêtres ainsi que les joints des briques, puisqu'elle dirigeait les eaux de pluie directement vers le sol. On pensait enfin que cette inclinaison donnait plus de gueule à la maison vue de la rue. Mais en fait, si toutes ces raisons ne sont pas à rejeter, il faut revenir au Moyen-Âge pour découvrir le vrai motif. Jusqu'en 1452, toutes les maisons d'Amsterdam étaient en bois. Deux édifices échappaient à la règle et étaient bâtis en briques. La vieille église en 1306 et la nouvelle église en 1400. Or, un incendie en 1421, suivi d'un autre encore plus désastreux en 1452, avait terriblement endommagé Amsterdam. Une nouvelle loi a été alors votée dans la même année, interdisant les toits de chaume et contraignant chaque maison à être revêtue d'une façade en briques. Or, au Moyen-Âge, lorsqu'on construisait, on se limitait d'abord au plein pied. Et quand on rajoutait un étage supplémentaire, celui-ci marquait une légère avancée sur la rue par rapport à celui du dessous. Quand il a fallu à partir de 1452 revêtir de briques ces façades moyenâgeuses, un problème s'est posé. Comment obtenir une surface plane sans avoir à raboter la partie des étages supérieurs? Bref, on ne s'est pas cassé la tête et on a voulu éviter des dépenses inutiles et on a par conséquent érigé une façade suivant la ligne en échelle tracée par la construction moyenâgeuse. Ce qui explique l'inclinaison vers l'avant de beaucoup de façades. Venons-en maintenant à l'inclinaison de type fortuite ou accidentelle. À l'origine, le sol d'Amsterdam se constitue d'abord d'une couche de tourbe de 4 mètres d'épaisseur, suivie d'une couche d'argile de 6 mètres d'épaisseur. À première vue, pas le terrain idéal pour construire. À 11 mètres de profondeur se trouve la première couche de sable. À partir du 15e siècle, on va donc créer un système de fondation en enfonçant des poutres en bois jusqu'à la première couche de sable, le sable offrant à la poutre une meilleure assise et stabilité. Mais au cours des siècles, les eaux souterraines vont quelquefois modifier leur parcours, exposant ces poutres à un contact plus intense avec l'oxygène, phénomène qui entraîne leur érosion. Ce qui fait que la maison, lentement mais sûrement, va s'enfoncer dans le sol et de manière inégale. Vous le voyez aux portes et aux fenêtres. En plus, un entrepreneur peu scrupuleux pouvait commander des poutres au rabais dont la longueur ne permettait pas d'atteindre la couche de sable. De nos jours, il y a des entreprises spécialisées dans la réfection des fondations et elles utilisent des techniques modernes comme la pose d'une dalle de béton. Cela empêche la maison de s'enfoncer, mais cela ne la redresse pas pour autant. Remettre en état les fondations est une chose coûteuse. Le montant va de 50 000 à 100 000 euros. Et lorsque le service d'inspection des bâtiments constate un enfoncement de la maison, les propriétaires sont obligés de faire dans les 2 ans qui suivent appel à une entreprise de réparation.